Eh bien, bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Soyez les bienvenus sur Fréquence Pop Culture, le podcast qui fait crépiter la pop culture. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un film des années 2000 que j'ai beaucoup aimé. Et si vous suivez régulièrement mon podcast, vous verrez que je suis quelqu'un qui a aimé beaucoup de films dans les années 2000. Je pourrais dire entre la fin des années 90 et la fin des années 2000, donc on va dire jusqu'à 2010, c'est une période où je trouve qu'il y a eu un grand nombre de films de qualité, et moi en tout cas des films qui m'ont marqué en tant que fan de cinéma. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler du film Le Pacte des Loups, qui est un film que j'ai beaucoup aimé, et dont j'ai envie de vous parler sous plusieurs aspects. J'ai envie de vous parler un petit peu du pitch général du film. Je vais un peu spoiler, mais finalement l'histoire du Gévaudan, de la bête du Gévaudan, si vous connaissez un petit peu, ça reprend les grandes lignes, donc c'est pas vraiment du spoil. Après, je vais pas rentrer en détail dans le détail que l'histoire que Christophe Gans a développé avec son scénario dans ce film, mais je vais en donner quand même les grandes lignes. Je vais aussi parler de la construction de ce film, les faits historiques réels, et aussi qu'est-ce que moi j'ai pensé de ce film, pourquoi j'aime ce film. Ben, dans toute la description que je vais vous faire de ce film, ça va vous montrer pourquoi j'ai aimé ce film, car en effet, c'est un film qui a suscité beaucoup de débats et d'engouement à l'époque, notamment en France, parce qu'on s'attendait à peut-être un film américain un petit peu, alors que c'est clairement un film français. Je vais vous donner justement la vision de Christophe Gans, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, qui se fait pour moi trop rare, mais bon, on reviendra à la fin sur le réalisateur Christophe Gans. Donc, ce film a été réalisé donc par Christophe Gans, qui a réalisé auparavant Crying Freeman, et qui a par la suite réalisé par exemple Silent Hill ou bien également La Belle et la Bête. C'est un film qui a eu un budget de 32 millions d'euros, donc c'est un beau budget pour un film français quand même. Donc sorti en 2001, il a eu une durée de 2h22 et il a fait plus de 5 millions d'entrées en France, mais il a eu un succès aussi à l'international, peut-être un peu plus grand que le succès qu'il a eu en France. Donc 5 millions, c'est déjà énorme. On avait déjà vu que quand Kaamelott avait atteint les 2 millions, on avait beaucoup parlé dans les réseaux sociaux, c'était déjà un très beau chiffre. Bon, après, il y a eu toute la période, justement, avec le pass sanitaire qui a dû freiner peut-être potentiellement les entrées en salle, mais bon, on voit que 2 millions était déjà un palier qu'il fallait atteindre. Donc là, 5 millions d'entrées, c'est un très très beau score pour un film français. Bon, après, il a 32 millions de budget, c'est le double du film d'Alexandre Astier. Mais bon, je reviens un petit peu sur le détail du film. Film donc qui a très bien marché à l'international. Pour vous donner un indice, il a une note de 7 sur 10 sur IMDb, ce qui est plutôt une bonne note pour un film français sur IMDb, et c'est un film très apprécié outre-Atlantique, donc aux États-Unis. Donc dans ce film, on retrouve au casting Samuel Le Bihan, qui joue le chevalier Grégoire de Fronsac. On va également retrouver Émilie Dequesne, qui joue Marianne de Morangias. On va retrouver donc la personne qui joue son frère, donc Jean-François de Morangias, avec l'acteur Vincent Cassel. On retrouve également Monica Bellucci dans le rôle de Sylvia. Jérémy Régnier, qu'on a pu voir par exemple dans l'excellent Clo-Clo. Peut-être qu'un jour je parlerai également de ce film Clo-Clo, film qu'on a, pareil, film qui est un peu passé à la trappe quand il est sorti en France. On n'en a pas beaucoup parlé, alors que c'est un film exceptionnel en termes de réalisation, en termes de réalité. Ça colle à l'histoire de Claude François, si on voit des archives de Claude François. Enfin, il y a des scènes qui sont des copier-coller de scènes d'archives de Claude François. Mais bref, je reviendrai peut-être un jour sur le film Clo-Clo avec Jérémy Régnier. Et on a également Marc Dacascos qui joue le rôle de Manny, qu'on avait pu retrouver dans Crying Freeman, donc le premier film connu qui avait cartonné de Christophe Gans. On retrouve également des grands acteurs également connus du cinéma français comme Jean-Yann ou bien Jean-François Stévenin, qui nous a quittés il y a très peu de temps, qui était un acteur que j'adorais. J'avais eu d'ailleurs la chance de faire une masterclass de Jean-François Stévenin, et c'était quelqu'un de passionnant, un vrai passionné de cinéma, quelqu'un de très simple, quelqu'un de très humble et quelqu'un d'hyper abordable. Donc on a perdu un grand acteur en la personne de Jean-François Stévenin. Je trouve que pareil, on a très peu parlé de la disparition de Jean-François Stévenin, et je trouve ça dommage parce que c'était un grand du cinéma français. Alors quel est le pire pitch de ce film. Alors, je vais vous parler du pitch global du film, et ensuite je vais embrayer sur les faits historiques de ce film. Donc, on va suivre l'histoire de Grégoire de Fronsac, qui est dépêché par le roi Louis XV pour tuer la terrifiante bête du Gévaudan qui sévit dans la région du Gévaudan et qui tue les habitants de cette région, et plus particulièrement les femmes et les enfants qui sont les principales victimes de la bête du Gévaudan. Donc vous allez voir qu'il va être avec son frère d'armes, donc Mani, et tous les deux, ils vont mener cette traque pour trouver cette bête du Gévaudan, mais on va voir qu'ils vont très vite se confronter, je suis perdu, j'arrive plus à parler. Ils vont se confronter à la noblesse qui ne semble pas pressée de voir cette bête du Gévaudan stoppée et de voir ses agissements s'arrêter.
C'est en l'an 1764 que la bête apparut sur nos terres élyficiennes. Sous ses assauts, le pays de Gévaudan s'enfonçait peu à peu dans les ténèbres.
Donc ça, on pourrait dire que c'est un peu le pitch global, général du film. Je ne vais pas rentrer dans le détail politique du film, parce qu'il y a beaucoup de politique et de religion dans ce film. Je vous donne vraiment le pitch global. Donc il faut savoir que ce récit, ce film, se base sur l'histoire, le fait historique de la bête du Gévaudan, mais c'est un film qui ne se revendique pas comme un film historique. Il se voit plutôt comme un film sur un mythe folklorique français. Comme l'a dit le réalisateur, on a vu beaucoup de films à Hollywood sur des requins, etc. Des choses comme les Dents de la Mer, etc. sur des choses qui n'ont pas existé, alors que dans la mythologie, les mythes folkloriques, rien qu'en France, on a beaucoup d'histoires avec des choses comme ça qui se sont produites en Europe. Et la bête du Gévaudan est un fait historique, donc c'est vraiment quelque chose qui s'est passé. Avant de venir sur les faits historiques de la bête du Gévaudan, il faut savoir qu'à la base, le film devait s'appeler Lupus Dei, qui signifie le dieu loup, un petit peu, on pourrait dire. Et nous sommes sur le retour d'un cinéma qu'on appelle le cinéma de genre, un peu comme on a pu le voir récemment à Cannes, où le film de genre a fait un petit peu son retour avec la réalisatrice de Grave. Alors, film que je n'ai pas vu d'ailleurs, et le film qui a eu la Palme d'Or, le titre est en train de m'échapper, le titre ne me revient pas, et vu que je fais en une prise, je ne vais pas faire de recherche sur internet, mais bref, le film qui a gagné à Cannes cette année était un film de genre. Alors il y a beaucoup de films de genre, mais bon, là on a un peu remis en lumière les films de genre, et il faut savoir que le film de Christophe Gans était un film de genre. Alors, quels sont les faits historiques de la bête du Gévaudan avant de développer un petit peu sur le film et comment ce film a été construit? Il faut savoir que donc, cette histoire se base sur des véritables faits historiques qui sont passés lors du XVIIIe siècle et qui auraient provoqué environ à peu près 150 victimes entre 1764 et 1767. Donc vous voyez que c'est une période quand même assez courte. Ça s'est déroulé donc dans le Gévaudan, qui est, je crois, de ce que j'avais compris, est actuellement la Lozère actuelle. Lozère ou Auvergne du Sud, enfin bref, c'est un petit peu cette région-là, aujourd'hui, mais à l'époque, c'était le Gévaudan. Et nous sommes dans une époque sous le règne de Louis XV, surnommé le Bien-Aimé, donc qui était le roi de cette époque. Donc ce mystérieux animal, enfin cette mystérieuse bête, comme je vous l'ai dit, tue essentiellement des femmes et des enfants, et il se murmure dans le territoire que ce serait le diable en personne qui commettrait ces meurtres, et du coup toute la France entière va s'intéresser à ces événements qui sont passés au Gévaudan, c'est remonté jusqu'à Louis XV, et qui va suivre ces événements de près. Il va tellement suivre ces événements de près qu'il va envoyer des chasseurs, il va faire mener d'immenses battues dans le Gévaudan. On va recenser jusqu'à 40 000 chasseurs dans le Gévaudan, donc des milliers de loups ont été tués, ça a été un véritable massacre de loups qui s'est passé à cette époque, afin de trouver cette fameuse bête du Gévaudan, et à chaque fois, ces chasseurs sont revenus bredouilles, parce qu'ils tuaient des loups en effet, mais ils n'ont pas trouvé cette fameuse bête terrifiante qui était la bête du Gévaudan. Ça va prendre une grande ampleur et Versailles va un peu se détourner du problème et va un peu laisser le monde paysan se débrouiller seul avec cette bête du Gévaudan. Et un jour, la bête aurait été apparemment finalement abattue par un groupe de 12 personnes, mais cette théorie qui a été mise en avant par Versailles a été beaucoup contredite par la suite. Je suis pas historien, je donne vraiment les faits que j'ai un peu pu recenser. Ça serait probablement une sorte de mensonge politique afin d'étouffer cette affaire qui avait vraiment pris beaucoup d'ampleur à l'époque. Donc toutes les études de l'époque indiquent que la bête n'aurait pas été un loup, parce que par exemple, les témoignages disaient que la bête aurait fauché le sol avec sa queue, un petit peu comme ça, alors que le loup, quand il attaque, a toujours sa queue droite très proche du sol. Donc beaucoup d'indices indiquent qu'il ne s'agissait vraiment pas du tout d'un loup qui attaquait ces personnes, et que c'était probablement un animal dressé à tuer, qui pesait environ dans les 55 kilos, et qui aurait été une sorte de mix un petit peu entre un chien et un loup, hein, une sorte d'animal un petit peu hybride, mais qui en tout cas n'était pas un loup, et qui malheureusement... Cet événement va malheureusement grandement contribuer à donner une mauvaise image du loup, et ce qui va provoquer de nombreux massacres donc pendant les fameuses battues pour trouver la bête, mais également après dans l'histoire. Le loup va continuer, le loup qui avait déjà pas une bonne image à l'époque va avoir cette mauvaise image et va en payer le prix fort en étant énormément massacré. Bon, là on est sur un fait historique, mais si on revient sur des faits réels, on pense par exemple, je parlais aux Dents de la Mer, il faut savoir que les Dents de la Mer a eu aussi un impact écologique parce que ça a beaucoup nuit à l'image des requins, et c'est ça qui a fait cette peur des requins qui a fait on a tué beaucoup de requins. Spielberg en avait déjà parlé à l'époque, je l'avais vu en parler dans des reportages où même lui s'en voulait un petit peu parce que c'était pas du tout l'objectif qu'il avait quand il a fait ce film. Il pensait pas que le film prendrait une telle ampleur et que les requins seraient chassés notamment par peur. Bref, donc là on est vraiment sur des faits historiques, donc du Gévaudan. Pour revenir sur le projet du film, il faut savoir que le scénario a été amorcé en 1998 par un scénariste qui bossait pour Studio Canal. Il a mis à peu près un an d'écriture et après il s'est mis à la recherche d'un réalisateur pour ce film. Et c'est là qu'il a fait parvenir le scénario à Christophe Gans, qui au bout de 8 jours lui a donné sa réponse. Il a adoré le scénario, il a voulu s'engager sur le projet. Surtout qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, Christophe Gans est en train de patauger dans un projet depuis 3 ans sur un film qu'il voulait réaliser sur Nemo. Et il s'est embourbé dans ce projet qui n'arrivait pas à sortir de terre. Du coup, il a complètement abandonné le projet de Nemo pour se lancer sur ce projet du Pacte des Loups. Donc l'idée a beaucoup plu à l'époque à Christophe Gans parce qu'il aimait beaucoup, comme je vous ai dit, que c'est déjà quelque chose de l'histoire de France, d'une histoire où on n'a pas vraiment élucidé, donc il y a du mystère, et il y a aussi de la politique qui va se mêler à tout ça, parce qu'il faut savoir que ce film va se dérouler pendant le siècle des Lumières, c'est l'époque de Voltaire, et il faut savoir qu'à cette époque, la religion commence à être beaucoup dénigrée, on dit que cette bête est un envoyé du diable, et que c'est parce que les gens ne croient plus en Dieu, etc., etc. Donc il y a beaucoup d'histoires autour de ça, qui montrerait que apparemment cette bête aurait été dressée pour ça, pour que les gens retrouvent la foi, entre guillemets. Alors, il y aurait deux personnes qui auraient été identifiées comme vraiment aux origines du dressage de la bête du Gévaudan, qui étaient des personnes apparemment un petit peu sadiques, d'après ce que j'ai un peu vu, mais bon, je ne connais pas assez le dossier de la bête du Gévaudan, mais en tout cas, il faut savoir que la religion et la politique brassent beaucoup à l'époque, et que on est dans une époque où la religion est remise en question, et du coup, c'est dans ce terreau que Christophe Gans va faire germer sa bête du Gévaudan, en tout cas dans ce film. Donc il faut savoir que Christophe Gans a choisi de faire un casting très varié. Il a décidé de prendre des jeunes acteurs et actrices et de les mélanger avec d'anciens acteurs et actrices. Son but, c'était vraiment de mélanger les générations et de faire une sorte de passation entre les anciens et les nouveaux, on pourrait dire. Parce que, en fait, Christophe Gans est plus un pro de la mise en scène qu'un pro de la direction d'acteur. J'ai vu pas mal de documentaires sur Christophe Gans et il faut savoir que Christophe Gans est plus focus sur la technique que sur la direction d'acteur. Et Monica Bellucci l'a dit d'ailleurs elle-même quand elle était sur le tournage, elle a dit que le problème quand on est focus sur la technique, on peut un peu s'y perdre sur les jeux d'acteur, et c'est pour ça que Christophe Gans laisse une grande part de responsabilité aux acteurs et actrices, parce que lui, il estime qu'un acteur ou une actrice est responsable de son rôle, de son travail, c'est son métier, et que chaque personne doit apporter sa pierre à l'édifice. Vincent Cassel a d'ailleurs énormément apprécié qu'un réalisateur ne le materne pas et le pousse à prendre justement des décisions sur des prises en particulier. Il pouvait demander à Christophe Gans est-ce que la scène est bonne, et Christophe Gans lui disait bah je sais pas, toi qu'est-ce que t'en penses, est-ce que tu trouves que t'as été bon, est-ce que pour toi la scène est bonne, ou est-ce que tu veux en refaire une, est-ce que tu penses que tu peux faire mieux, est-ce que t'as donné ton max. Enfin, il responsabilisait les acteurs et actrices sur le tournage, et c'est plutôt quelque chose en tout cas de l'école de Christophe Gans. Il faut savoir également que Christophe Gans a été extrêmement content de retravailler avec Marc Dacascos, avec qui il avait pu travailler sur Crying Freeman, et que donc Marc Dacascos va jouer le rôle de Manny, une sorte de guerrier chaman, un personnage mystérieux qui fait des combats. On va revenir après sur les combats, justement, comment les combats ont été approchés. Mais c'est un personnage qui est aussi très lié à la magie. Il écoute le vent, il perçoit un peu l'âme des gens. Il écoute, il regarde les animaux comme s'il les comprenait. Donc c'est un personnage très très mystique pour l'époque, et c'est un peu un écologiste avant l'heure, parce qu'il a beaucoup de messages sur l'écologie. Il a également beaucoup de messages de paix et de tolérance dans une France où il a atterri. Lui qui n'est pas de la France, il est très choqué un petit peu de voir comment les gens se comportent. Car lui, il est vraiment traité comme un indigène, comme ils disent dans le film. Et on voit que... Alors, c'est, apparemment, j'ai vu un petit peu des documents historiques qu'à cette époque, bah justement, il y avait des personnes qui venaient des Amériques, etc., qui pouvaient être en France et qui étaient vraiment très, très mal traitées par les gens en France. Et ça montre un petit peu ça, justement, ce personnage complètement... choqué par le comportement de ces personnages, et je trouve ça intéressant que Christophe Gans ait mis ça en lumière. Pour moi, on ne peut pas parler d'un film sans parler de l'habillage du film. Quand je parle de l'habillage du film, ça va être un tout, ça va être les décors et les costumes. Les décors sont vraiment sublimes, les costumes également. Christophe Gans a dit qu'il voulait donner vie à des textures oubliées, donc peut-être des tissus qu'on ne voit plus aujourd'hui, des lumières avec des bougies, etc., qui éclairent la pierre et des choses un petit peu différemment. Il voulait donner vie à des, comme il dit, des textures oubliées. Donc il y a un véritable travail incroyable qui a été fait sur les décors. Il faut savoir que le film est essentiellement tourné en décor réel, en extérieur, donc c'est des vraies églises, des vraies forêts, etc. Donc ça a été un gros challenge en termes d'éclairage, parce qu'il y avait de la pluie, il y avait du vent, donc dès que le vent bougeait, ça faisait bouger les éclairages qui étaient sur des grandes... des sortes de grands appareils qui les tenaient un petit peu maintenus en l'air. Et du coup, ça a été très compliqué, parce que Christophe Gans voulait vraiment de la prise réelle. Mais pour lui, c'était important d'apporter cette réalité, parce qu'il voulait que le décor naturel apporte quelque chose de grandiose au film et qu'il ne soit pas limité par le cadre d'un studio. C'est-à-dire que s'il tourne la caméra et qu'il arrive au bout du décor, bah ça, il voulait pas. Il voulait que quand il tourne sa caméra, bah il n'y ait pas de fin de décor, en gros. Il a voulu que ce film soit un petit peu, comme il l'a décrit, une sorte d'opéra à ciel ouvert. Le film est composé, donc dans ses décors réels, dans ses environnements réels, il y a eu un total de 85 décors qui ont été utilisés pour le film. C'est franchement énorme. Aujourd'hui, on voit des films en tout numérique. C'est hyper rare de voir autant de décors. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'il y a certaines scènes qui sont des fois tournées à deux pas de Paris, dans des forêts aux alentours. Et quand on voit ça, on pourrait pas croire qu'on est à une demi-heure de Paris. Donc ça, je trouve que c'est plutôt judicieux. Et c'est ce qui fait que le film, dans sa globalité, a bien vieilli, sauf sur les effets numériques, mais on va y revenir un petit peu après, et sur un certain type d'effets numériques. Mais le film, en tant que décor, en lumière, etc., a plutôt bien vieilli. Donc il faut savoir que Dan Lutzi, qui est le directeur de la photo, qui travaillera par exemple plus tard sur la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, ou bien John Wick 2, 3 et prochainement 4, mais également sur Silent Hill, a voulu beaucoup de contraste dans ces scènes. Donc lui, qui a l'habitude d'être derrière la caméra, a décidé de prendre du recul de l'objectif pour se rapprocher des acteurs et actrices afin de capter la lumière parfaite qu'il recherchait pour le film. Donc il y a eu aussi un gros travail sur la partie des costumes. Donc Christophe Gans ne voulait pas avoir des costumes trop vieillots qui ne donnent pas envie de voir le film. C'est-à-dire qu'il voulait que la jeunesse qui voit ce film ait envie de voir ce film, et qu'il ne voit pas juste un film historique avec des costumes... bof, qui disent, où les gens vont se dire « Oh là là, un film en costume, ça m'intéresse pas. » Il a voulu vraiment apporter de la modernité dans les costumes, comme par exemple en faisant un mix avec une veste cache-poussière et un chapeau tricorne. Ça fait un effet très moderne, ça fait un effet aussi un petit peu western, et du coup ça donne un 18e un peu plus noble avec des matières comme le cuir qui ont été utilisées par exemple pour les costumes. Une autre partie super importante du Pacte des Loups, ça va être toute la partie qui va concerner les combats, qui va apporter aussi une dose de modernité au film dans le rythme. Donc ça a été les combats ont été faits par Philip Kwok, qui est un acteur et chorégraphe hongkongais. C'est lui qui a pris les commandes et le pilotage des combats. Son idée, c'était de faire un mix des styles de combat. Il voulait pas que ce soit un film uniquement basé sur le kung-fu, un petit peu comme on peut le voir dans Matrix, comme Yen Wuping a fait avec Matrix. Lui, il a vraiment voulu faire un film plus qui s'inspire un peu d'une époque. Il a voulu aussi montrer que les armes racontent une histoire des personnages. Si on prend par exemple dans le film le personnage de Grégoire de Fronsac, il a des sabres jumeaux. Et bien, ces deux sabres jumeaux représentent l'amitié entre lui et Manny. C'est-à-dire que chaque sabre représente chacun des personnages. Si on prend par exemple l'arme, une espèce d'épée en os de Jean-François de Morangias, donc qui est joué par Vincent Cassel, et bien ça représente son bras mutilé. Donc les armes aussi racontent un peu l'histoire des personnages. L'idée, c'est aussi de montrer qu'à cette époque, les combats étaient hyper violents et qu'on se battait avec tout, avec la tête, avec les poings, avec les pieds, avec les coudes. Enfin, c'était des combats très violent, et qu'on n'est pas dans une époque, comme on peut le voir dans les films de l'époque, dans l'imaginaire collectif, dans une époque de cap et d'épée, où on est avec un fleuret comme ça, et on se bat avec une épée, avec une main dans le dos. Cette époque, c'était pas du tout ça en fait, c'était vraiment des combats violents, des combats sanglants, où on se servait de tout ce qu'on avait pour la main pour combattre, et ça a voulu être montré également dans le film. C'est pour ça que vous voyez qu'ils se battent beaucoup avec des bouts de bois, des morceaux de bois, des outils aussi qu'utilisent les paysans. Ça va être des faux, ça va être des râteaux, ça va être des pelles, ça va être tout ce qui tombe sous la main, on pourrait dire, pour combattre.
Il n'est pas question tout d'un coup de joindre un héros et tout d'un coup voilà d'être assis sur son siège avec marqué le billon derrière et puis de regarder le cascadeur en train de mettre des trempes à tout le monde à sa place. Je voulais gagner ma place, vis-à-vis de Christophe et vis-à-vis de Marc aussi.
Philip Kwok a aussi amené une technique de combat avec des câbles, très utilisée dans le cinéma hongkongais, mais très peu répandue à l'époque dans le cinéma européen. C'était déjà développé, bah justement, on est vraiment dans une nouvelle ère du cinéma. Matrix, justement, avait déjà travaillé ce cinéma avec Yen Wuping, avec toutes ses armatures, ses câbles, etc. Mais dans le cinéma européen, c'était quelque chose de pas commun. Et Philip Kwok a dit qu'il a eu beaucoup de mal à travailler avec les cascadeurs français parce que ils n'étaient pas du tout habitués à ce type de chorégraphie, donc il a dû vraiment apporter des nouvelles techniques d'apprentissage, et notamment avec les acteurs, avec Samuel Le Bihan, Marc Dacascos et Vincent Cassel, qui n'a qu'un seul combat à la fin du film, mais où il a vraiment voulu tout donner et il s'est beaucoup entraîné pour ça. Et du coup, bah, par exemple, on a la scène de combat sous la pluie, qui est la scène d'introduction du film, qui est une scène magnifique. Je l'ai revue encore il n'y a pas longtemps. Elle est hyper bien chorégraphiée, la lumière, la musique, les coups de pied, enfin, c'est très très violent. Et bah, à la base, cette scène se déroule en 3 actes, et Samuel Le Bihan aurait dû combattre dans cette scène. Donc cette scène, pour l'anecdote, où on voit des paysans déguisés en femmes, parce que la bête du Gévaudan n'attaquait que des femmes, donc les paysans se déguisent en femmes pour se faire attaquer par la bête du Gévaudan et ainsi la tuer. Donc c'est ça qu'on voit. Donc c'est ces personnages déguisés en femmes dans le film. Et finalement, on voit que Marc Dacascos combattre ces paysans, parce qu'on le réalisait. Alors la scène a été tournée avec Samuel Le Bihan, où pendant une semaine ils ont tourné sous de la pluie, hein, quand même, où Samuel Le Bihan combat, mais elle n'a pas été conservée au montage parce que Christophe Gans voulait conserver le mystère autour du personnage de Samuel Le Bihan et montrer qu'en effet il sait se battre, mais ça sera plus tard, on va le voir dans le film. Là c'est plus quelqu'un de philosophe, etc. Et c'est Marc Dacascos qui interprète vraiment le personnage qui sait se battre et qui sait mettre des raclées à des personnes qui viennent leur chercher des problèmes. Donc les combats sont très très bien, je trouve, et ils ont pareil, ils ont très très bien vieilli en ayant revu le film il n'y a pas très longtemps.
Alors, les porteurs de torches, quand vous êtes autour, faites comme ça en regardant le combat. Bougez légèrement d'un pied à l'autre, comme ça, pour donner toujours l'impression que vous allez attaquer d'un moment à l'autre, d'accord ?
Je pense que ça fait partie d'un langage universel, là aussi commun à tous les hommes, que le héros se tient droit, ses adversaires sont courbés, et ainsi de suite. C'est quelque chose qu'on trouve partout.
En parlant de vieillissement du film, on va arriver sur pour moi la partie qui a le moins bien vieilli du film. Il s'agit tout simplement de la bête du Gévaudan. Comment cette bête a été mise à l'écran, comment Christophe Gans l'a souhaité. Donc il faut savoir qu'on est au balbutiement des images de synthèse. Hein. Alors oui, aux États-Unis c'est beaucoup plus développé. Là on est sur du cinéma européen, je crois que c'est une boîte anglaise qui avait bossé sur les effets visuels. En tout cas pour la bête du Gévaudan, et c'est un mélange d'animatronique et d'images de synthèse, donc une bête du Gévaudan a vraiment été faite en animatronique, elle était vraiment face à face avec les acteurs, donc avec toutes les dents en métal et tout articulé, et en fait Christophe Gans a voulu une créature façon un peu comme la créature qu'a créée Frankenstein, vraiment une créature violente mais en même temps qui souffre, qu'on voit qui est en souffrance, et on voit que c'est une sorte de tigre dans le film qui a été transformé en monstre, car sous sa coquille on peut distinguer un animal. Peut-être un tigre, peut-être un lion, on ne sait pas vraiment. Mais en tout cas, voilà l'idée qu'a voulu donner Christophe Gans à cette bête. Alors oui, je trouve que c'est la partie du film qui a le moins bien vieilli, car comme je le dis régulièrement dans les podcasts, les effets numériques, malheureusement, c'est ce qui vieillit le moins bien avec le temps, et ça, on peut rien y faire. Plus le temps avance, plus ça vieillit mal. Alors, il y a quelques parties avec les animatroniques qui passent bien, mais les scènes où on voit vraiment la bête, vraiment de plan d'un point, où on voit la bête en entier, là, on voit vraiment que c'est de l'image de synthèse, et c'est un peu dommage, mais bon, malheureusement, c'est le temps qui veut ça, et on est un peu au début des effets visuels. Et par contre, il y a d'autres effets visuels qui ont été faits, je crois, par une personne des effets spéciaux en France qu'ils appellent les effets visuels, les effets numériques invisibles, comme par exemple, à un moment donné, on voit plein de loups qui sont tués, la fameuse battue qui a été menée par, qui a été lancée par Louis XV, et ben, ils pouvaient pas reproduire plein de faux loups morts, donc il fallait multiplier les loups morts, ben, tous les loups morts qu'on voit, c'est l'image de synthèse. Il fallait également, par exemple, multiplier les figurants, parce qu'à un moment donné, pas assez de figurants. Donc pareil, tout ça, ça a été fait en numérique. L'épée télescopique que va utiliser Vincent Cassel, pareil, elle est faite en numérique. Elle a pas méga bien vieilli non plus, je trouve, malheureusement. Et en plus, là où ça a été très difficile pour Vincent Cassel, c'est qu'il avait que le manche de l'épée pendant qu'il jouait, et que pour lui, c'était très difficile parce qu'il n'avait pas la notion de poids de l'épée dans la main, étant donné qu'il avait que le manche. Donc c'était pas évident. Mais voilà, ça c'est un peu les effets invisibles que va décrire Christophe Gans pour parler des effets visuels. Il y a aussi un exemple que j'ai déjà donné dans d'autres podcasts, c'est la fameuse neige sur un toit qui n'existe pas. Il y avait très peu de neige, ils ont rajouté de la neige numérique parce que le toit était trop pentu et qu'ils ne pouvaient pas rajouter de la neige, ça aurait été dangereux pour les acteurs et actrices qui se trouvaient sur la scène. Donc voilà un petit peu tout ce que je pouvais vous dire sur la construction de ce film, l'histoire de la bête du Gévaudan. Pourquoi tout ça fait que j'ai aimé ce film, tout ça fait que j'ai découvert un réalisateur, j'ai découvert Christophe Gans, et ce mec est passionnant. J'ai vu beaucoup de making-of de ce réalisateur, c'est à la même époque où j'ai découvert Jean-Pierre Jeunet, et je trouve que c'est des réalisateurs fantastiques, trop rares malheureusement. Les critiques ont été très très dures, les critiques journalistiques ont été très dures avec Christophe Gans, parce que Christophe Gans se veut être un fan de Carpenter, et que les journalistes pensaient voir du Carpenter au cinéma. Et comme a dit Christophe Gans, ce n'est pas Carpenter, c'est Christophe Gans, donc il a fait son propre cinéma. Mais c'est très dommage, parce que Christophe Gans, alors il a fait d'autres projets par la suite, mais il a beaucoup de projets qui sont tombés à l'eau. Il voulait par exemple développer un film sur Tarzan, il voulait refaire un Fantomas, il voulait faire un Bob Moran aussi, il voulait développer un Raon. Donc on voit que c'est quelqu'un qui est très très proche de la pop culture. Quand je vous parlais de pop culture, c'est tout ça aussi la pop culture. Moi qui suis fan de pop culture, d'où le titre de ce podcast, et Christophe Gans colle parfaitement, je trouve, avec cette idée et cette vision de la pop culture, et c'est dommage que ce réalisateur se fasse aussi rare, car c'est un réalisateur de talent, et j'aurais vraiment, vraiment apprécié qu'il fasse encore plus de films. On sait jamais, peut-être qu'il va refaire d'autres projets ambitieux, donc là il a un peu bossé aux États-Unis, mais en tout cas, quand il a fait le Pacte des Loups, il a dit qu'on avait un problème en France, c'est qu'on souffrait du syndrome que les Français ont honte de faire des films un petit peu ambitieux comme le Pacte des Loups, en mode c'est comme si on faisait des films, des sous-films américains. Et ce film est la preuve contraire, parce que c'est un film qui a très bien marché aux États-Unis. Donc si c'était un sous-film américain, il n'aurait pas marché aux États-Unis. Et bizarrement, ce film a beaucoup mieux marché aux États-Unis que dans certains autres pays du monde. Bon, il a bien marché en France, plus de 5 millions d'entrées, mais il a cartonné aux États-Unis. Et c'est un film culte aujourd'hui aux États-Unis. Si vous parlez du Pacte des loups aux États-Unis, c'est connu. Et c'est ça aussi qui a fait la renommée de Christoph Gans aux États-Unis. Donc c'est pour ça que je voulais faire un petit podcast, un petit peu pour remettre en lumière ce film qui, je trouve, est un peu un oublié des films du cinéma français, ambitieux, je dirais. On va beaucoup bloquer en disant la bête du Gévaudan, elle a mal vieilli, tout ça. Oui, c'est vrai, l'effet numérique de la bête a très mal vieilli, mais c'est pas que ça le film. C'est quand même plus de 2 heures de film, et il y a des décors magnifiques, il y a des scènes incroyables, des jeux d'acteurs époustouflants, des décors grandioses. Il y a une tablée à un moment donné où on voit qu'ils sont tous en train de manger avec des bougies, etc. La scène est magnifique en termes de décor, c'est incroyable, ça ressemble à du théâtre limite. Donc rien que pour ça, si vous n'avez pas vu ce film, je vous invite vraiment à le découvrir, et si vous l'avez vu, je vous invite à le redécouvrir, à le revisionner, bien sûr en gardant en tête ce fameux effet visuel de la bête du Gévaudan qui a un peu mal vieilli. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent donner envie de revoir ce film dans de bonnes conditions, avec un bon son, sur un bel écran aujourd'hui. Alors je ne sais pas s'il y a eu un remaster de ce film. Moi j'ai le coffret DVD version longue de ce film, mais peut-être qu'il y a eu une version remaster, j'en sais rien, j'ai pas regardé. Peut-être qu'il existe en Blu-ray aussi également, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi je vous invite vraiment à découvrir ou redécouvrir ce film, Le Pacte des loups. Et bien voilà, ce podcast est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que je vous ai pas perdu avec tous les éléments que je vous ai donnés. Pareil, hein, pour le côté historique, désolé si je me suis un peu embrouillé, je suis pas historien, hein, pas du tout. Hein.
C'est de la merde. Quoi ? Sire !
Alors attendez, Caradoc, soyez pas si catégorique non plus.
C'est ça votre spécialiste ?
Allez, non, mais essayez de développer un peu.
Mais y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout.
En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire sur Twitter ou sur Instagram, ça me fera hyper plaisir d'en débattre avec vous. N'oubliez pas, la culture est bien sûr partout autour de vous, on se retrouve prochainement pour un prochain podcast. Prochainement pour un prochain, je me répète, mais c'est pas grave, sur Fréquence Pop Culture, d'ici là, surtout le plus important, prenez soin de vous. Ciao, ciao.